Bonjour. Je vois les enfants qui étaient présents parmi nous. Ça me fait penser au début, quand on a commencé notre église, il y avait une famille d'étudiants qui ont participé avec nous, qui avait trois enfants. Il n'y avait pas de babysitter, on n'avait pas de sœur qui pouvait s'occuper des enfants. Donc, en tant que messager, pour moi, Dieu m'a donné un bel entraînement de ne pas dépendre de ce qui se passe, mais de vraiment prêcher, parce que par moments, on a mis les enfants dans une chambre à côté. On a commencé dans notre maison et puis à un moment, les enfants pleuraient. Donc, une des mamans est partie pour s'occuper des enfants. Et puis après, notre fille a commencé à pleurer aussi. Donc, ma femme est partie. Je me retrouvais tout seul en tant que messager. Mais je remercie Dieu. C'était un bon entraînement de dépendre vraiment de Dieu lui-même et de sa parole. Donc, à l'occasion de la semaine universelle de prière du 10 au 17 janvier, Olaf m'a proposé un échange de chair que j'ai accepté bien volontairement. Pendant trois dimanches du mois de janvier, nous avons une chance exceptionnelle de méditer le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc sur le thème du le retour des fils perdus. C'est un temps où nous pouvons méditer sur l'amour de Dieu, notre Père, mais aussi un temps de faire le point sur notre foi. C'est un temps magnifique de prière et de partage entre chrétiens, entre communautés, comme celle qui m'est donnée aujourd'hui de partager cette parole avec vous. Mais aussi, c'est un temps d'ouverture vers les autres, où nous pouvons partager notre foi et les conduire à Christ et prier pour eux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Si nous regardons le chapitre 15 de l'Évangile de Luc, nous voyons que, alors que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait des malades, beaucoup de personnes venaient à lui, y compris les pécheurs, qui étaient considérés comme pécheurs publics à cette époque, c'est-à-dire les péagers et les prostituées. Ils étaient des gens bannis de la société, rejetés, les exclus de la société. Les chefs religieux pensaient qu'ils étaient même impardonnables, que Dieu les avait rejetés, que le salut n'était pas pour eux, parce que leur faute était trop grave. Les gens les méprisaient, ont craché lorsqu'on passait à côté d'eux. Eux se sentaient vraiment exclus, ils étaient exclus. Ils croyaient eux aussi que la parole de Dieu n'était pas pour eux. Mais Jésus pensait différemment. Notre Seigneur Jésus-Christ les a accueillis et leur a prêché la parole de Dieu. Il partageait la parole de Dieu avec eux. Car ils croyaient au salut de quiconque croit en lui. Eux aussi étaient heureux d'entendre la parole de Dieu. De pouvoir entendre parler de toutes les merveilles de Dieu. D'entendre que Dieu le Père voulait les accueillir à bras ouverts s'ils se repentaient et qu'ils désiraient revenir vers lui. Bien sûr, les chefs religieux méprisaient cela. Ils disaient, « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Ils n'avaient rien compris à l'amour de Dieu. Alors Jésus va leur raconter trois paraboles, dont la parabole du fils prodigue que nous allons écouter aujourd'hui, que vous avez déjà commencé à écouter la semaine dernière. Alors plus jeune, je croyais que c'était la parabole du fils prodige, qui veut dire « génie ». Je ne comprenais pas pourquoi dans la Bible on a écrit le fils prodige à cause de ce qu'il a fait son père dans ses prodigues, c'est-à-dire qu'il dépense sans compter, qu'il dépense follement. Il y a beaucoup de fils prodigues pendant les soldes, je crois aussi, qui dépensent follement, sans compter. Et voilà. En tant que garçon, je ne pouvais pas me permettre de dire ça. J'en ai deux à la maison, mais non, en tout cas. Mais c'est bien la parabole du fils prodigue. Cette parole, c'est une image magnifique de l'amour de notre Père céleste, l'amour sans condition de Dieu pour tous les pécheurs, pour tous les hommes. Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui. Pourtant, certains pensent que leur péché est trop grave pour que Dieu puisse les accueillir et que Dieu puisse les pardonner. Ils ont tort. Certains pensent que Dieu les aime moins parce que les tempêtes de la vie les ont affaiblis spirituellement. Ils ont tort. D'autres encore pensent qu'ils ont fait des choses impardonnables en tant que chrétiens, qui les empêchent de revenir à Dieu. Encore, désolé de le dire, ils ont tort. Dieu est amour. Dieu nous aime. Et il attend notre repentance et notre retour avec impatience. Dans le passage d'aujourd'hui, nous parlerons de prise de conscience spirituelle, de décision, de courage, de repentance, mais aussi d'humilité. Et celui qui va nous donner cette leçon, ce témoignage, Ce n'est pas un chrétien bien affermi, fort dans sa foi, mais c'est un jeune homme qui a, comme on dit, brûlé la chandelle par les deux bouts, qui a abusé de sa vie, abusé de la vie du péché, qui est au fond du trou. Il était plein d'espoir, il était plein d'illusions, de rêves dans le monde, mais il est tombé plus bas qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Mais une décision, la décision la plus importante de toute sa vie, va complètement changer son existence. Celle de retourner vers son père. Il pensait que la décision de partir pour découvrir le monde, c'est ça qui allait changer sa vie. Moi, c'est vrai, ça a changé sa vie, mais pas comme il l'avait pensé. Il se retrouve dans une situation difficile, insurmontable maintenant. Mais la décision de retourner vers son père, de revenir vers Dieu, va complètement changer son existence. J'aimerais revenir rapidement sur la première partie du chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Cette parabole nous parle d'un père qui avait deux fils. Ici, le père, c'est Dieu. Le fils aîné sont les pharisiens et le jeune fils sont les pécheurs. Les deux fils avaient grandi et travaillé dans le domaine de leur père et espéraient un jour hériter de tous les biens de leur père. Mais cette vie n'allait pas au jeune fils. Il en avait assez de travailler pour son père. Je ne sais pas s'il travaillait beaucoup, mais en tout cas, il avait peut-être l'impression de travailler beaucoup pour son père. Alors il avait envie de liberté, il avait entendu parler de choses géniales qui se passaient à la ville. Donc il demande à son père sa part d'héritage, il vend tout l'héritage et il part à la ville pour s'amuser. Il a utilisé toute sa liberté pour aller dans un pays lointain. Ici, le pays lointain, c'est le monde pécheur. Il a mené une vie de débauche, il s'est noyé dans les rires, les soirées alcoolisées et les rencontres d'un soir. Cette vie a continué jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent sur son compte en banque. Alors, lorsqu'il a dit à ses amis qu'il n'avait plus d'argent, ils ont commencé tous, ses amis, soi-disant amis, ils ont commencé tous à s'éloigner de lui. Il s'est retrouvé seul, sans argent, dans une terre étrangère. Puis, comme si le sort voulait vraiment s'acharner sur lui, une famine est tombée sur le pays. Une de ses connaissances a eu pitié de lui, lui a donné un travail comme gardien de porc. Il faut savoir, Jésus n'a pas utilisé ce métier par hasard. Les Juifs détester les porcs. C'est un animal impur, c'est-à-dire gardien de porcs, c'est le plus vil de tous les métiers qu'on puisse pratiquer. C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est tombé tellement bas qu'on pense qu'il ne peut pas remonter. Même pour lui, c'était un travail scandaleux et humiliant, mais pas le choix. Il fallait bien vivre, et encore. Il n'avait même pas assez d'argent pour pouvoir manger. Il désirait manger la nourriture des porcs. Jésus décrit ici l'état de l'homme pécheur, tel que les Juifs le voyaient. Pas que Jésus le voyait, tel que les Juifs le voyaient, quelqu'un de vil, quelqu'un qui est tombé très bas, qu'on ne peut pas remonter. Comme le jeune homme de cette parabole, beaucoup de gens pensent trouver la liberté dans le monde à travers la gloire, la richesse, les plaisirs de la chair, mais ils s'éloignent finalement de l'amour du Père céleste et de toutes ses bénédictions. Combien épris de liberté deviennent les esclaves de leurs péchés. Beaucoup croient que la liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ça, être libre. Mais ce n'est pas ça, la liberté. La vraie liberté, c'est pouvoir dominer les tentations, dominer sur ses péchés, dominer sur ses passions. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est être vraiment libre. Seul Jésus peut nous donner cette vraie liberté. Alors, c'est vrai qu'en regardant le jeune fils, certains seraient tentés de lui jeter la pierre et de dire « Il l'a bien cherché. Tant pis pour lui. » C'était son choix. Il n'a qu'à assumer maintenant sa vie. C'est ce que pensaient les pharisiens, à cause de leur légalisme et de leur orgueil. Mais Jésus ne pensait pas ainsi, Dieu ne pense pas ainsi. Oui, c'est vrai, ce jeune homme a commis une faute grave lorsqu'il a fait vendre à son père tous ses biens et qu'il a dilapidé cette fortune. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas ça, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait ensuite. Je vous invite à regarder ensemble les versets 17 à 20. Je vais lire, rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Alors ces quatre versets sont pleins d'enseignements. Alors, comme on travaille parmi les étudiants, on a une approche qui peut paraître un peu scolaire, parfois avec une étude un peu systématique. Je ne sais pas si vous étiez fâché avec l'école, mais en tout cas, n'ayez pas peur. D'abord, le jeune homme est rentré en lui-même. On aborde ici le point fondamental de la rencontre avec Dieu. C'est une œuvre intérieure. La rencontre avec Dieu ne se fait pas par les choses extérieures, par telle ou telle action. On ne rencontre pas Dieu par des œuvres ou en participant à telle ou telle réunion, mais la rencontre avec Dieu est personnelle, c'est une œuvre qui se fait dans notre cœur et dans notre âme, dans notre esprit. Bien sûr, on n'a pas besoin d'attendre d'être au fond du trou comme ce jeune homme pour pouvoir rencontrer Dieu, heureusement. Mais il est vrai que beaucoup de gens, après avoir été profondément blessés dans la vie ou avoir perdu leur foi, on peut dire comme ça, ou leur foi devient très faible, à ce moment-là, ils sont au fond du trou, à ce moment-là, ils peuvent vraiment connaître profondément l'amour et la grâce de Dieu et revenir vers Dieu parce que Dieu est prêt à les accueillir. À ce moment-là, les chrétiens ont un rôle important à jouer pour les guider dans leur existence, pour leur tendre la main et les conduire vers Dieu. Tant que le jeune fils était chez son père, il n'est pas rentré en lui-même, pas besoin, il vit une vie insouciante d'un fils du dernier-né, bien-aimé. Lorsqu'il était avec ses soi-disant amis du monde, qu'il a dilapidé sa fortune, il n'a pas besoin de rentrer en lui-même, il s'amuse, il profite de la vie, soi-disant. Mais lorsqu'il est dans une situation difficile, où il ne peut plus rien faire par lui-même, où l'extérieur ne peut plus rien lui apporter pour le sauver, pour l'aider à surmonter la situation, alors il commence à rentrer en lui-même. C'est toute une prise de conscience, c'est tout un processus qui va se passer dans son cœur. Alors c'est vrai qu'un ami lui a donné un travail, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il n'avait pas assez à manger, mais ce n'était pas suffisant pour l'aider à surmonter son angoisse intérieure. Le thème aujourd'hui de ce message est « Retour sur soi et petit commencement ». Celui qui entre en lui-même et qui prend conscience de sa misère spirituelle commence un voyage. Sachons être sensibles et déceler cette décision dans le cœur de nos frères et sœurs ou des jeunes, des gens qui viennent dans notre église pour les accompagner sur ce chemin. Alors voyons comment le jeune homme de cette parabole a cheminé dans son esprit et dans son cœur jusqu'à revenir vers son père. D'abord, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? À ce moment-là, le jeune homme comprend ce qu'il a perdu. Il se rappelle que même les employés dans la maison de son père ont du pain en abondance. À cette époque-là, vous savez, les serviteurs étaient plutôt maltraités, donnaient le pain sec ou en tout cas. Mais il sait que dans la maison de son père, même les serviteurs ont du pain en abondance. À plus forte raison, combien lui, le fils, l'héritier, pouvait-il jouir de tous les bienfaits que son père avait préparés pour lui? Paul nous dit que Dieu nous donne tout avec abondance. En Dieu, nous pouvons trouver l'abondance de nourriture céleste qui nourrit notre âme. Quelle est cette nourriture que Dieu nous donne en abondance? Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 35, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus lui-même est cette nourriture. Jésus dit que celui qui vient à lui, celui qui croit en lui, sera rassasié spirituellement. Son âme sera pleinement rassasiée. Le corps de l'homme vient de la poussière du sol et donc, pour nourrir notre corps, nous devons manger le pain qui vient de la terre. De même, notre âme vient du ciel et elle se nourrit du pain venant du ciel. Le pain fournit l'énergie, la force, la joie au corps humain. Bon, pas seulement le pain, nous on est en France, on aime bien accompagner le pain de beaucoup de choses. Mais en tout cas, toutes ces choses nourrissent notre corps et nous apportent la joie. De même, Jésus-Christ nourrit notre âme. Nous apporte la joie, la force dont nous avons besoin chaque jour pour marcher vers Dieu, pour, comme disait l'auteur d'Épître aux Hébreux, continuer à courir la course qui nous a été donnée de courir, courir vers le royaume des cieux. Jésus pourvoit la vie spirituelle et satisfait l'âme de l'homme. Comme l'homme a faim et soif physiquement, il a aussi également faim et soif spirituellement. Comme la faim physique peut être dépassée seulement par la nourriture, la faim spirituelle peut être apaisée seulement par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Jésus nous donne une promesse merveilleuse. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si vous avez faim et soif de la parole de Dieu, venez à Jésus-Christ. Venez à Dieu, il étanchera votre soif et vous rassasiera de tous ses bienfaits, de toutes ses grâces. Ensuite, le jeune homme se dit, « Moi ici, je péris à cause de la famine. » Il prend conscience de la misère dans laquelle il se trouve. Je péris, je meurs. Si je continue à vivre ainsi, je vais mourir. C'est ce qu'il s'est dit. Prendre conscience de notre état spirituel est une étape essentielle vers le salut et la sanctification. Prendre conscience que sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ dans ma vie, nous sommes morts spirituellement. C'est indispensable pour pouvoir rencontrer Dieu. Nous devons aussi prendre conscience de nos besoins, que notre besoin n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il y a près de 28 siècles, le prophète Amos a dit une parole qui résonne jusqu'à aujourd'hui et semble encore tellement vraie. Il dit « Les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Combien de personnes dans ce monde meurent intérieurement à cause de la faim et de la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Si dans votre esprit il y a une souffrance profonde, un sentiment de vide, l'impression d'être mort à l'intérieur sans savoir d'où cela vient, c'est qu'il vous manque la parole de Dieu dans votre vie, c'est qu'il vous manque Jésus-Christ dans votre vie. La parole de Dieu est puissante, elle est active, vivante et efficace. Hébreux nous dit plus acéré qu'une épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, de l'os et de la moelle. Moi, je ne sais pas c'est où la division de l'âme et de l'esprit. Mais la parole de Dieu, elle sait où c'est. Elle sait aller jusque-là. La parole de Dieu peut pénétrer jusqu'au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. Notre jardin secret, soi-disant, Dieu peut entrer et Dieu peut nous bénir jusqu'à cet endroit, jusqu'au plus profond de nous. Regardons maintenant le verset 18. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Le fils prodigue, après avoir pris conscience de sa misère et de toutes les bonnes choses qui se trouvaient chez son Père, va prendre une décision courageuse de retourner chez son Père. Décision. Ce mot est tellement important. Il décide de se lever de sa misère et de sortir de sa situation insupportable. Ce n'est pas facile. On peut imaginer tous les doutes, toutes les choses qui ont pu apparaître dans son esprit à ce moment-là. La honte, la peur du rejet. Est-ce que mon père va m'accepter après ce que je lui ai fait, même comme serviteur, est-ce qu'il ne va pas me rejeter? Et puis le « qu'en dira-t-on ? » Que vont dire les autres ? Que vont dire les voisins ? Que vont dire mes anciens amis, mes anciennes connaissances ? Vous savez, la honte et la peur sont les deux premières sensations qui sont arrivées dans le cœur de Adam lorsqu'il a commis le péché dans le jardin d'Éden, qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu cherche Adam dans le jardin en disant « Où es-tu ? Où es-tu ? » C'est un appel à la repentance, c'est un appel à revenir vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Adam ? Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. » Parce que je suis nu, je me suis donc caché. Il a peur, il a honte. C'est la conséquence du péché. La peur et la honte sont les armes favorites de Satan pour nous empêcher de nous lever et de retourner dans la maison de Dieu. La honte, c'est la culpabilité à cause de notre péché. Satan nous fait croire que nous sommes tellement impurs que nous ne sommes pas dignes de retourner dans la maison de notre Père. Mais c'est un mensonge. Jésus a dit clairement au sujet de Satan, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est un menteur, il est le père du mensonge. Nous ne nous laissons pas tromper par les mensonges de Satan, qui nous fait croire que Dieu a un Dieu autoritaire qui prend plaisir à punir et qui rejette ses enfants qui reviennent à lui. Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant et sincère. Il est important pour nous de décider de nous lever de notre misère spirituelle. Mais c'est important aussi de savoir où on va. Il ne suffit pas de se lever et de dire « j'y vais », mais oui, mais où ? Ce jeune homme savait qu'il devait retourner dans la maison de son père, dans la maison d'abondance, dans la maison du pain, dans la maison des bénédictions, dans la maison de l'héritage. Nous aussi devons retourner vers Dieu, vers le royaume des cieux, où il y a l'abondance, où il y a la joie, et où nous serons héritiers, comme Dieu l'a promis, co-héritiers du Christ, héritiers du royaume des cieux. Cette parole du jeune homme, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père », C'est un petit commencement, mais tellement important. Nous aussi, nous devons dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lève, je vais vers toi, mon Père. Je ne connais pas vos situations personnelles, mais peut-être parmi nous, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, qui sont abattues. Je vous exhorte à vous lever et aller dans la maison de votre Père, où il y a toute abondance et toutes les bénédictions et les joies. Comme disait Jésus, soyez sans crainte, croyez seulement. J'ai écouté le message d'un pasteur québécois sur Internet dernièrement, qui raconte une anecdote sur une jeune femme qui s'appelle Melissa Franklin. Melissa Franklin. En français, c'est Melissa Franklin, mais comme elle est américaine, je pense qu'on dirait Melissa Franklin. Je pense. Elle est une nageuse professionnelle qui a gagné plusieurs médailles aux Jeux Olympiques, y compris des médailles d'or. Elle est chrétienne. Elle témoigne souvent de sa foi et de son identité en tant que chrétienne. Elle racontait qu'un jour, elle allait s'entraîner dans un lac où elle avait l'habitude de nager. Elle plonge, elle nage, et soudain, il y a une brume qui s'est répandue sur le lac. Elle ne pouvait plus trouver le bord. Donc elle a commencé à paniquer, elle a décidé de nager de toutes ses forces vers un endroit, et puis elle ne trouve pas le bord. Alors elle réfléchit quoi faire. Elle nage de l'autre côté opposé, elle nage de toutes ses forces, mais elle ne trouve toujours pas le bord. Alors elle est là au milieu de la brume, au milieu du brouillard. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir, quoi faire? Et puis elle voit au loin, elle entend une voix, et puis elle voit une petite lumière qui clignote. C'était son père qui, avec une petite lampe éclairée sur le bord du chemin, et qui l'appelait. Alors elle a écouté la voix, elle a regardé la lumière, elle a nagé, elle a pu être sauvée. Elle a témoigné que dans sa vie, il y avait beaucoup de moments de brouillard comme ça en tant que chrétienne. Nous aussi, parfois, il y a des moments de brouillard dans notre vie, mais si nous écoutons la voix de notre Père Céleste, que nous marchons dans sa lumière, alors nous serons sauvés. Le jeune homme savait qu'il avait offensé son Père. Il dit, Père, il veut dire à son Père, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. D'abord, j'ai péché contre le ciel. Il savait qu'il avait offensé son Père, qu'il avait péché contre son Père, mais pas seulement. Que par son action rebelle, il avait aussi offensé Dieu, son Père céleste. Mais au lieu de se morfondre dans sa culpabilité, il a décidé de confesser sa faute et de demander pardon. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est le premier élément pour recevoir le pardon de Dieu, le baptême de repentance. Dans Jean chapitre 3, Jésus parle du baptême de repentance. La deuxième étape, c'est le baptême de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui descend sur nous, qui nous apporte le pardon qui vient de Dieu. Alors nous sommes nés de nouveau et nous devenons les enfants de Dieu. Et nous avons notre part à faire, c'est la repentance. Alors on pourrait parler longuement de la repentance. Moi, j'aime à parler de la repentance selon quatre étapes. La première étape, c'est je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai vécu différemment de ce que Dieu voulait, loin de la loi de Dieu. La deuxième étape, c'est je demande pardon à Dieu, pardon pour mes offenses dans notre Père. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi mes offenses. Mais j'ai envie de dire que, non pas que ça ne suffit pas, mais que notre repentance ne serait pas complète. Je crois aussi que la troisième étape, c'est j'accepte le pardon de mes péchés par Jésus-Christ. J'accepte qu'il m'a pardonné mes fautes et qu'il m'accepte tel que je suis. Et enfin, la dernière étape, je décide de changer de vie, de mener une vie différente de ce que Dieu m'a donné. Jésus a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La repentance doit aussi être accompagnée d'humilité. Verset 19, le Fils dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés, comme l'un de tes serviteurs. » Le fils savait que être traité comme un des employés dans la maison de son père était une grâce, même si lui avait été le fils, parce qu'il avait déshonoré son père. Quand nous avons grandement offensé quelqu'un et que cette personne nous pardonne, alors nous savons que c'est une grâce. Cela me fait penser à un homme, à un pharisien qui s'appelait Saul de Tarse. Il était un homme qui pensait servir Dieu, un homme profondément instruit dans la parole de Dieu. Il avait approuvé la lapidation de Étienne. Il persécutait l'Église en pensant servir Dieu. Il était un homme imbu de sa propre personne, un homme rempli de propre justice. Mais il était aussi un homme sans pitié. Alors qu'il allait à Damas pour rassembler les chrétiens et faire prendre les chrétiens pour les mettre en prison, le Christ ressuscité lui apparut. Paul lui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul a reçu un choc. Il connaissait profondément la parole de Dieu. Il savait ce que cela voulait dire d'avoir persécuté Dieu, d'avoir persécuté les enfants de Dieu. Alors lorsqu'il arrive à Damas, déjà il est devenu aveugle, et lorsqu'il arrive à Damas, pendant 3 jours, il reste enfermé dans une chambre remplie d'angoisse, sans manger, en priant, dans l'attente de ce que Dieu va faire de lui, de ce que Dieu va faire avec lui. Et Dieu va lui envoyer son serviteur, Ananias, et Dieu va l'appeler à être son serviteur, à prêcher la parole de Dieu à ses enfants et aux païens. Quelle grâce pour cet homme qui avait été ennemi de Dieu, ennemi de l'Église. D'ailleurs, Paul confesse lui-même, « Je suis moi le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » C'était la vraie humilité. Il connaissait vraiment la grâce de Dieu dans sa vie. À cause de son péché, l'homme n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu, mais par sa grâce, Dieu a pardonné les péchés à tous les hommes en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, de sorte que l'homme puisse hériter du royaume des cieux. La grâce n'est pas quelque chose qui est dû. La grâce, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est une force. C'est un des attributs de Dieu. Quand nous sommes humbles, nous sommes semblables à Dieu. L'humilité, ce n'est pas s'écraser. Parfois, on pense être humble, c'est je m'écrase, je ne dis jamais rien, je laisse tout passer. Ce n'est pas ça, l'humilité. La Bible dit, par exemple, que Moïse était très humble. L'homme le plus humble de tous les temps. Pourtant, Moïse était un chef, un guide. Il était un homme rempli d'autorité, un juge qui reprochait parfois avec dureté son peuple parce qu'il se rebellait contre la parole de Dieu. Mais Moïse obéissait à la volonté de Dieu. Il était humble car il faisait entièrement ce que Dieu lui demandait dans sa parole. Jean-Baptiste disait, « Il faut que Jésus croisse et que je diminue. » C'est quelle belle définition de l'humilité. Laissons Jésus croître dans notre cœur. Laissons Jésus croître dans notre vie. Alors normalement, je crois que mon message aujourd'hui doit s'arrêter là, mais je vais mettre un pied dans le message de Gérald la semaine prochaine. Je vais terminer juste par ce verset. « Il se leva et alla vers son Père. » Je pense que c'était important aussi. Parce que la volonté du Fils n'est pas restée simplement dans sa tête. « Yaka, faucon, je vais faire ci, je vais faire ça, je ferai ci, je ferai ça. » Vous savez, toutes les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année et qu'on tient, si on tient, 3 jours, allez, 1 mois pour les plus audacieux. Mais il a agi comme il avait décidé. Tout ce qu'il a parlé, la prise de conscience, la repentance, la décision de revenir vers Dieu, toutes ces choses-là dont on a parlé ne servent à rien si on ne le fait pas. On est chrétien parce qu'on agit. Parce qu'on est des hommes et des femmes d'action, spirituellement. L'action, ça ne veut pas dire forcément les choses extérieures, aussi intérieurement. C'est aussi une action intérieure, bien sûr. On entend parfois parler d'amour platonique, mais la foi platonique, ça n'existe pas, hein, je vous le dis. Dieu ne nous demande pas de tout révolutionner d'un coup, de nous lancer dans des défis qu'on ne pourra pas tenir. Il nous demande juste un petit commencement. Il y a un sage chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Lao Tse, qui a dit, peut-être vous connaissez cette citation, « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Se lever 10 minutes plus tôt le matin pour prier, par exemple, donner 1 heure par semaine pour étudier la Bible, venir au culte le dimanche, sont des petits commencements qui peuvent changer nos vies. Dieu nous invite à entrer en nous-mêmes et prendre conscience que c'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut et l'abondance spirituelle. Amen. Pour terminer, j'aimerais juste lire ce que le CNEF nous a envoyé, l'esprit de révélation et de vérité donne la capacité de voir et d'être libéré. Soyez libres. Soyez libres en Christ. Recevez l'amour de Dieu et toutes les bénédictions de Dieu dans vos vies. C'est tout ce que j'espère pour vous, c'est ce que je prie pour vous. Amen. Je vais prier pour finir. Notre Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu dans ce monde donner sa vie pour nous pardonner nos péchés. Seigneur, nous étions comme des enfants rebelles, peut-être par insouciance, peut-être par inconscience. Nous avions voulu profiter des choses de la vie parce que tout le monde fait comme ça et parce qu'on pensait que c'était le chemin, Seigneur. Nous avons appris que sans toi, Seigneur, nous sommes dans la famine. Nous sommes dans la misère spirituelle, Seigneur. Notre vie n'est pas pleinement accomplie. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que nous sommes pécheurs. Aide-nous, Seigneur, à revenir vers toi. Ton amour est tellement grand que rien ne peut pas être pardonné. Aide-nous, Seigneur, à entrer en nous-mêmes et à faire des petits commencements dans nos vies, Seigneur. Nous lever, Seigneur, et aller vers toi. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole chaque jour de notre vie. Bénis cette assemblée, bénis tous les frères et sœurs qui sont assemblés ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que chacun puisse faire un petit commencement dans sa vie pour un long chemin qui mène jusqu'au royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen.